Nous sommes le 24 avril 2019, vous écoutez le Dojo Bar. Je rappelle que cette émission est réalisée par des professionnels surentraînés. N'essayez surtout pas de les imiter chez vous. Voilà, ça marche pas. En fait, ça marche pas l'intro, c'est pas grave. Bonsoir à tous, bonsoir Mecton. Alors Zergy ne peut pas nous parler pour des raisons de micro, mais bonsoir Zergy quand même, qui est là, qui nous suit, qui fera ses remarques pertinentes, donc je serai la voix de Zergy. Je vais essayer de l'imiter, ça va être très compliqué, donc on va pas faire ça je pense. Bonsoir Drosgar, qui est présent, qui est parmi nous.
Bonsoir à toutes et à tous.
C'est ASMR Drosgar. Et Galaxis qui n'est pas encore là, qui est
il
là,
le salaud.
Qui est là, voilà, qui est là par l'esprit seulement. Bref, il est seulement là. Donc le programme de ce soir, nous allons parler de Nintendo Labo VR, puisque ça y est, on l'a enfin testé, on l'a enfin. Oui, voilà, c'est ça. Zergy va être en léger différé. Voilà, je transcris au fur et à mesure. Donc nous allons parler de Nintendo Labo VR. Nous allons parler des 30 ans du Game Boy.
Là.
Je sens que ça va nous suivre, mais je tolérerai les deux.
La NES portable.
La NES, oui, c'est un peu ça. Mon constat pour la Game Boy, c'est un peu ça. Donc, on va donner un petit mot des conférences de l'E3. On va parler de l'anniversaire de la 3DS. On a deux anniversaires de deux consoles portables de Nintendo à fêter ce soir. Mais on va commencer tout de suite par l'arrivée de Nintendo en Chine.
À pied.
Ceci n'est pas une contre-pétrie, s'il vous plaît. L'arrivée de Nintendo en Chine, notamment de la Switch en Chine.
Putain, c'est chaud à dire ça.
L'arrivée de la Switch en Chine, c'est surtout ouais. Que je suis sûr qu'il y a une contrepétrie, mais j'arrive pas à la trouver. Ça me depuis cet après-midi, ça me.
Le taraude. Tu vois la pine.
Voilà, j'adore ce mot. Donc l'arrivée de la Switch en Chine par Nintendo. Alors je sais pas si ça va être un partenariat de type IQ. Parce que je rappelle que la 3DS est arrivée en Chine. En fait, les consoles de salon de Nintendo n'arrivent pas en Chine. En tout cas, pas les versions officielles. Les contrefaçons chinoises arrivent. Ça n'y a pas de problème. Mais les consoles officielles n'arrivent pas. Par contre, pour tout ce qui est console portable, ça arrive en Chine depuis très longtemps. Alors, je rappelle que la première, c'était l'IQ, qui était une espèce de manette N64 tout en un, qui fonctionnait avec un système de téléchargement dans des bornes spéciales. Voilà, qui contient des versions chinoises de une vingtaine de jeux Nintendo. Et genre Super Mario 64. On va pas dire de bêtises, je crois qu'il y avait pas GoldenEye Perfect Dark, il y avait Super Mario Party. Enfin, il y avait Mario Party. Et il y avait 2-3 autres jeux sur l'IQ chinois, donc. Et en fait, la marque IQ, même si l'essai de Nintendo de lancer ce truc-là en Chine a finalement... Enfin, je sais pas si ça a bien marché ou pas, mais ça a pas duré longtemps. La GameCube était déjà sortie depuis longtemps en Europe, donc c'était vraiment plutôt une espèce de ballon d'essai pour voir si on pouvait vendre du jeu vidéo en Chine, qui est un pays qui est quand même notoirement connu pour ses problèmes de piratage et de contrefaçon et autres. Donc c'était quand même intéressant. Et donc par contre la DS est arrivée en Chine, la 3DS est arrivée en Chine, pareil, toujours sous la marque IQ. Et jusqu'à présent, la dernière incursion de Nintendo en Chine, c'était via le Nvidia Shield, où il y a quelques jeux Nintendo disponibles, notamment Twilight Princess, si je dis pas de bêtises, et Super Mario Galaxy. Alors, j'espère que je dis pas de bêtises. Vous me reprendrez si je dis des conneries. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de l'arrivée de Nintendo en Chine. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça va forcer... Enfin, l'action Nintendo a pris un boost énorme quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir la Switch en Chine. Il faut dire que la Switch est déjà un succès phénoménal. On a appris aujourd'hui qu'il y avait 8 millions d'exemplaires de la Switch qui s'étaient vendus au Japon, et au Japon seulement.
C'est correct.
C'est plus que correct, puisqu'apparemment, ils vont quand même tailler le cul à Sony, hein.
Sur la globalité ou sur l'année là? Enfin, sur la période de sortie?
Alors, sur la globalité.
Putain, c'est beau.
Sur la globalité. Ouais, non, mais je trouve ça hyper impressionnant.
En deux fois moins de temps à peu près.
Voilà, la Switch au Japon, en 3 ans, va peut-être commencer à tailler le cul de la PS4.
Ouais, toujours JBC, au Japon. JBC nous rappelle que Nintendo va mourir.
Oui, effectivement, étouffé sous le pognon. Ils vont s'étouffer avec leurs propres billets. Et donc, l'arrivée de Nintendo en Chine, ça a fait voilà, plus 8% sur l'action. Tout le monde, tout d'un coup, s'est dit, c'est la fête, c'est machin, c'est tout ça. Quelle forme vous pensez que ça va prendre? Est-ce que vous pensez que ça va être un partenariat avec un éditeur chinois, par exemple, comme l'IQ? Est-ce que vous pensez que ça va être vraiment Nintendo qui va arriver en propre sur le marché chinois? Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Est-ce qu'il y aura des jeux en boîte? Est-ce qu'il y aura seulement que du téléchargement? Est-ce qu'ils vont attendre d'avoir bouché toutes les failles sur la Switch qui permettent notamment de downgrader le firmware et ainsi de suite?
J'ai juste une question. Jusqu'à présent, ils passaient par un partenaire chinois, ces rapports au rapport un peu tendu entre le Japon et la Chine, ou il y a une autre raison?
Alors, il y a une raison historique, c'est que tu peux pas faire du business en Chine si t'as pas un partenaire chinois.
D'accord.
Faut que l'entreprise soit chinoise ou que ce soit un partenariat avec une entreprise chinoise.
Alors, si ça a pas changé, c'est mort.
Alors, si ça a pas changé, c'est mort, mais...
Si ça a changé, justement, il y avait pas mal d'annonces là-dessus il y a un an et demi, dans mes souvenirs. Et je crois même qu'on avait évoqué en news à l'époque. Et justement, c'est ça qui ouvrait un peu les portes au business étranger. Et c'était vraiment l'ouverture de la Chine sur d'autres investisseurs que vraiment leurs investisseurs propres. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, mais c'est une vision de petit occidental hein, qui dit ça, avec cette arrivée en Chine, c'est que ces pays, entre guillemets, émergents, ont une façon totalement différente de la nôtre de consommer les jeux vidéo. Et j'ai peur justement que, au vu de la taille du marché, Nintendo soit poussé de changer un peu sa manière de créer le jeu. Et c'est vrai que tout ce qui est free-to-play mobile, tout ce qui est MMO, etc., qui va être vraiment autre chose que la conception qu'on a l'habitude, nous, de voir du jeu vidéo, est très présente là-bas, ou dans plein de pays, justement, non occidental. Et c'est vrai que cette arrivée massive sur ce genre de territoire, vu le potentiel de clientèle qu'il pourrait y avoir derrière, ça pourrait les inciter à faire d'autres styles de jeux. Et déjà, ils n'en vont pas énormément. Ça serait dommage, en plus, que notre prochain Animal Crossing soit vraiment un free-to-play-like, juste pour plaire à ce genre de marché. Ce serait pas le cas, là, c'est trop proche, bien sûr. Mais dans les années qui viennent, ou sur la prochaine génération, ça serait une possibilité.
Alors, Zergy qui nous dit, ces pays étrangers qui sont pas comme nous, c'est lamentable. Je suis complètement d'accord.
Mon micro est bien, là? Ma bouche est complètement tout le temps rouge.
Bonjour, Alexis.
Bonjour, Bar,
oui, très bien. Bonsoir, Alexis.
Je sais pas si c'est
tu
OK.
Tu es un petit peu du proche coup, de ton micro, je pense.
Ah, il faut
et on entend ton clavier. Donc, tu règles ça, puis tu reviens. Moi, ce que ça me fait penser surtout, c'est que je me dis peut-être que Nintendo va commencer à développer des jeux avec des partenaires chinois, justement pour que ça corresponde un petit peu plus aux besoins ou aux attentes du marché chinois. Il y a aussi un exemple assez frappant que je connais, qui est le Brésil, dans lequel effectivement, alors qui est un pays émergent aussi, qui consomme effectivement le jeu vidéo pas du tout comme nous, mais qui du coup est extrêmement attiré par le jeu vidéo occidental. Notamment la Xbox 360 a super bien marché au Brésil parce que le Microsoft a énormément poussé là-bas, et ce qui poussait c'était surtout des jeux occidentaux, c'est-à-dire des Gears of War et des jeux comme ça, qui sont pas des jeux qu'on a l'habitude de voir sur le marché brésilien. Et ce qu'expliquaient les représentants de Microsoft, c'est disaient voilà, l'attrait pour le jeu occidental au Brésil est dans les années 2000 était quand même assez similaire à l'attrait pour les jeux japonais dans, comment dire, en Occident durant les années 80 et 90. Et finalement, c'était aussi une espèce de recherche du dépaysement. Je me dis que ça pourrait aussi avoir le même effet, c'est-à-dire que finalement Nintendo arrive avec une offre qui est un petit peu différente, qui est un petit peu nouvelle, qui se joue pas de la même manière que ce que les Chinois ont l'habitude de jouer, et donc ça pourrait aussi ouvrir un peu le marché. Les partenaires chinois ou les exclus chinoises, les jeux chinois, parce qu'effectivement Zergy dit peut-être qu'il y aura des exclus chinoises à un moment, c'est-à-dire des jeux qui ne sortiront sur Switch que en Chine. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible que Nintendo dise, bah tiens, je sais pas, Tencent ou d'autres studios comme ça, d'autres gros éditeurs chinois qui font aujourd'hui essentiellement du jeu sur mobile, est-ce que vous pensez que ça pourrait les intéresser d'aller faire du jeu sur Switch plus ou moins long terme?
Ils le font pas déjà avec le Shield qui fait tourner des trucs
Alors ils le font sur Nintendo, du Nvidia, enfin c'est pas officiellement sur du Nintendo, c'est sur le Shield, sur le Nvidia Store, enfin sur le Android, machin, tralali, tralala. Donc officiellement, non. Après officieusement, je pense que adapter des jeux pour mobile vers la Switch, c'est apparemment hyper facile, donc pourquoi pas quoi.
Coucou FF9.
Oui voilà, par exemple.
Ah, bon. Zergy Wadi, c'est des jeux Wii sur Shield, effectivement.
Ouais, c'est des jeux Wii sur Shield pour l'instant.
Après, oui.
C'est... Oui, Monsieur Galaxies.
Oui, bonjour. Après, c'est assez particulier. Enfin, c'est bizarre comme positionnement, sachant qu'ils sont super proches de Microsoft en ce moment et
les Chinois.
Même... Non, Nintendo.
Ils sont super proches. On attend encore de voir ce que ça va donner.
Oui, c'est sûr. Mais enfin, il y a déjà des rumeurs de rachat dans les prochaines années de Nintendo par Microsoft.
Sérieux.
Ce qui serait vraiment pas déconnant, sachant que Nintendo, je crois.
Si t'aimes le jeu vidéo, si c'est déconnant.
Mais je veux dire ce qui est pas totalement probable, sachant que Nintendo avait dit que qu'il voulait s'émanciper du hardware. Non, c'était pas ça.
Putain,
S'éloigner du marché du hardware. Donc, Microsoft a déjà les infrastructures, donc pourquoi pas. Et je trouve ça bizarre comme positionnement, il y a genre une mini-guerre froide économique entre la Chine et les États-Unis en ce moment, et ça va aller qu'en s'amplifiant. Donc, le fait que Nintendo se rapproche de Microsoft et en même temps s'ouvre au marché en Chine, je sais pas si ça pourra avoir des conséquences sur l'un ou l'autre, marché, quoi.
D'un côté, ils ont tout bon de ce côté-là, parce que tant que rien n'est vraiment sûr avec Microsoft en termes de rachat ou de vrais partenariats solides, ils ont tout intérêt à aller démarcher un marché aussi énorme, parce que ça serait dommage de se priver de ça si derrière rien n'aboutit avec Microsoft.
Bah, c'est même pas ça, c'est qu'au final, tu vas pas aller te priver d'un marché chinois qui peut te rapporter des millions, des milliards, même éventuellement si ton truc marche. Parce que t'as un partenariat avec Microsoft. Microsoft, ils vont les envoyer chier vite fait. Hein.
Ah non, ça c'est sûr.
Moi, ça me paraît évident. Par contre, effectivement, si Microsoft à un moment dit « Nous, on veut pouvoir toucher le marché japonais, toucher le marché chinois, et toucher le marché occidental, et toucher tous les marchés que touche Nintendo actuellement », oui, ils pourraient décider de les racheter, mais encore faut-il que ce soit à vendre aussi. Je rappelle qu'il y avait eu une proposition en 2000 ou 2001, je crois qu'on nous a... Zergy nous a rappelé qu'il y avait eu des rumeurs, mais apparemment, c'était plus ou moins vrai. Enfin, ça... Je ne sais pas si on a déjà eu de confirmation officielle, mais comme quoi Microsoft avait effectivement l'intention de racheter Nintendo, et finalement enfin, Nintendo a refusé le truc. Pour moi, s'ils n'ont pas d'intérêt fondamental à ça... Enfin bon, c'est un partenariat entre les deux, c'est-à-dire que Nintendo profite d'un certain nombre d'infrastructures de Microsoft, et que Microsoft sorte un certain nombre de jeux sur console Nintendo, dans la stratégie de Microsoft, ça ne me paraît pas déconnant. Surtout que globalement, je pense que Cuphead n'est pas du tout, par exemple, un jeu qui était adapté au public Xbox.
Oui.
Et à mon avis, il va mieux marcher sur Switch. C'est aussi bête que ça.
C'était grave étonnant qu'il n'était pas sur Switch, hein, d'ailleurs. Moi, c'est ce genre de jeu, quand on dit il va sortir sur Switch, tu demandes s'il n'y était pas avant, quoi.
Ouais,
non, mais complètement. C'est typiquement le genre de jeu qui a son public sur Switch. Et je pense que pour moi, la problématique de Microsoft aujourd'hui, c'est que le public qu'ils ont sur Xbox, à part Madden, FIFA et Halo... Enfin, tout le monde s'en fout, quoi.
Donc, Sea of Thieves, quand même.
Super.
Il tient.
Voilà. Non, mais en vrai, il y a énormément de joueurs, mais oui, enfin, ça fait pas une base de consommateurs, quoi. Mais oui, ça se compte en millions, les joueurs de Sea of Thieves, quoi. Oui, mais Call of, ça sort sur partout ailleurs, quoi.
Sauf sur Switch.
Oui, c'est sûr.
Mais c'est vrai que lorsque je regardais mes collègues au magasin qui étaient plutôt sur Xbox... En général, ils jouent à FIFA, Rainbow Six, Call of, et voilà. Et après, les jeux un peu pro Xbox, un peu de Madden, suivant en fait leur goût perso, mais ils vont jamais aller chercher plus loin, et ils vont rarement, ça me désole un petit peu, mais c'est normal aussi, et je veux pas passer pour un élitiste pédant, mais ils vont rarement aller chercher autre chose que ce qui se fait en grand public. Et c'est vrai qu'on remarque quelques différences avec les joueurs PS4, qui ont un profil un peu plus varié à mes yeux. Après, c'est une étude autour de moi, hein, c'est assez limité. Ou alors Switch, qui sont vraiment alors là hyper variés, suivant s'ils ont des enfants, suivant leur âge, etc.
Nous allons donc passer au sujet suivant, c'est l'anniversaire de la 3DS, qui fête ses 8 ans,
Wouhou,
et qui, on l'espère, va bientôt mourir, du coup, maintenant, parce que là, c'est bon, ça fait...
Elle est
ça
déjà
fait...
morte, mais elle le sait pas encore.
Ouais, c'est un peu ça, c'est quand même compliqué. Je sais pas quel est le dernier jeu 3DS que vous avez acheté.
Putain, c'était des promos de trucs que j'avais ratés, quoi.
Ouais, oui, c'est ça, tu trouveras un jeu à 5 balles quelque part, ou...
Bah, moi, les derniers jeux que j'ai envie d'acheter, c'est genre Captain Toad Treasure Tracker pour voir un peu la gueule du truc.
Tu l'as chopé, ton Fire Emblem ?
Je l'ai chopé, mon Fire Emblem.
Le Heroes, hein.
Enfin, le Warriors, oui.
Le Musso, là, ouais.
Ouais. Musso Fire Emblem sur 3DS, je l'ai chopé. Ça m'a bien fait marrer, d'ailleurs. Je l'ai juste allumé pour voir la tronche que ça avait. C'est ignoble. voilà, mais c'est, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que, à part, j'attends éventuellement Luigi's Mansion, le remake, qui baisse un peu de prix parce que je n'ai pas encore trouvé de promo intéressante, mais. Enfin, je sais pas.
Là, ça doit être WarioWare, le dernier que j'ai acheté plein pot.
Oui, voilà, donc ça. Enfin, non, The WarioWare, elle est sortie récemment. C'est vrai que même Nintendo, ouais. Ils avaient prévu de sortir un remake d'un Mario et Luigi Superstar Saga, je sais plus lequel. Inside Bowser Story, je crois. Ouais, c'était ça. Et apparemment, ça s'est vautré au Japon, mais monumentalement.
C'est con, il était bien celui-là.
On n'a pas encore de date pour le reste du monde. Donc, moi, mes avis, que ça sent quand même pas très, très, très bon pour la 3DS.
Ouais, elle est sous perf, quoi.
Mais je pense que. Alors, le truc, c'est... T'achètes une 3DS aujourd'hui, t'as une librairie de jeux impressionnante à ta disposition, alors que quand elle est arrivée...
Je vous rappelez, ouais.
Ah putain, ça a été, c'était au mois de... Alors, effectivement, avril, mars ou avril 2011, ça ne nous rajeunit pas. Mm-hmm. Le Dojo Bar n'existait même pas encore.
C'est vrai.
Et quand t'achetais ta 3DS, eh ben, déjà, tu l'as payé très cher, c'était combien? C'était 250
balles,
ouais, c'était
oui.
Hyper cher.
Il y a une 250 francs.
Non, ça suffit, c'est pas à ce point-là.
Écu,
oui. Il y a une première baisse de prix qui a eu lieu au mois de juillet, je crois, 2011. Juillet ou août.
Très rapidement.
Avec le programme ambassadeur.
C'est ça. Alors moi, j'ai encore mes jeux du programme ambassadeur qui restent des exclusivités, donc c'est quand même assez marrant.
Pareil.
Et je sais pas, il a fallu attendre la sortie de Super Mario 3D Land et quelques autres gros jeux de ce type-là pour que ça commence vraiment à décoller, quoi. Et notamment les Pokémon aussi. Ça, c'est... console portable de Nintendo sans Pokémon. Voilà. Il y a Ocarina of Time 3D, effectivement. Il y a Majora's Mask 3D, ça fait partie quand même des jeux marquants aussi. Est-ce que vous pensez que qu'il en restera quelque chose de la 3DS? Est-ce que vous pensez que Nintendo va finir par backporter certaines fonctionnalités de la 3DS vers la Switch? Je pense notamment au Street Pass, par exemple, qui... reste une exclusivité 3DS.
C'était rigolo,
quoi,
d'ailleurs.
Le Street Pass,
quand tu croisais d'autres gens qui avaient une 3DS, tu pouvais récupérer leur Mii.
Leur Mii et plein de choses comme ça, t'avais des morceaux puzzle.
Ouais, voilà.
C'est happen.
Non, mais il y avait plein de trucs avec les jeux.
En fait, t'as des jeux genre t'avais Street Fighter 4 où tu pouvais entraîner un combattant
en marchant.
Ah oui.
En marchant, et puis en fait, quand tu croisais des gens, bah, ça faisait des combats virtuels avec tes combattants, puis ça te rapportait des trucs, ça c'était marrant, quoi.
Le Smash, tu chopais. Enfin, des avatars d'autres joueurs, t'avais un espèce de mini-jeu pour les poutrer, pour gagner des trucs.
Kid Icarus, tu chopais plein, tu pouvais envoyer tu pouvais remettre des armes que t'avais chopées dans des cristaux pour pouvoir les mettre justement dans le Street Pass et récupérer d'autres armes dans des cristaux que te donnaient d'autres gens.
Mais ça marchait comment, le Street Pass?
Bluetooth, bah,
c'est juste du Bluetooth haute distance entre deux machines.
D'accord. Les deux trucs s'appairaient vite fait quand tu croisais quelqu'un et ça avait un petit échange en off, quoi.
Je me rappelle quand j'avais été au concert Zelda pour les 25 ans.
Ah, mais ça devait être l'orgie là.
Ouais, mais à chaque fois qu'en fait j'éteignais, j'allumais la 3DS, c'était 10. Tu sais, tu peux choper 10
limité.
Mecs par 10 mecs.
Ouais, ouais.
Et en fait, à chaque fois que je la fermais, que je la rouvrais, j'avais 10 mecs, donc je me dépêchais d'aller prendre les 10 mecs.
Et pour les farmer.
J'ai farmé des.
Voilà, ah, j'ai spécialisé Cory, c'était du Wi-Fi, le Street Pass.
Ah, c'est du Wi-Fi, c'était peut-être pas du Bluetooth. Est-ce que vous pensez que les rumeurs de Switch Mini, de Switch un petit peu plus, enfin qui serait que portable, qu'on a depuis quelques jours maintenant, est-ce que vous pensez que ça pourrait effectivement signer vraiment l'arrêt de mort de la 3DS, qui aura bien vécu, hein, 8 ans pour une console portable, c'est quand même énorme. Alors ça bat pas le record de la Game Boy dont on parlera tout à l'heure, mais quand même.
À voir si c'est vrai, hein, parce que déjà la apparemment
fait,
la rumeur de la Switch Pro, c'est pas. Il y a, je crois, c'est Gamekult qui avait titré que finalement ça pourrait ne pas se faire du tout la Switch Pro et qu'il resterait que la Switch Mini.
C'était du ARM, la 3DS.
Oui, c'est du ARM, la 3DS.
Ok, j'ai failli faire une chiaise en postulant sur un lecteur cartouche qui accepterait les deux formats.
Alors ça pourrait...
Ce serait dégueulasse. t'as ta vieille excroissance pour lire tes cartouches.
Non mais moi je trouve ça plutôt cool en fait, un peu comme le Game Boy Player. Si c'est le truc qui te permettrait de jouer sur ta télé à la 3DS ou à la DS, honnêtement...
Je sais pas si ça pourrait se faire aujourd'hui, si. Peut-être un truc en USB, ouais, à la limite.
Peut-être, ouais. Alors après ce serait un peu crado dans le métro, t'aurais ton tabitou USB qui dépasse
ouais,
de ta Switch. Mais...
Dans le métro,
Switch,
non, mais genre connecté à la dock...
ta Switch obligatoirement à la verticale pour les deux écrans? Comment ça marche?
Bah, je
laisse tomber.
Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Mais moi, je trouvais ça intéressant quand même aussi. Parce que, non, vu la résolution de la 3DS, en fait, je pense que. Et même de la DS tout court, parce que l'écran du haut, c'est du 240p, si je dis pas de bêtises.
Je me rappelle pas, ouais.
Je crois que c'est 240, c'est 320 par 240. Et l'écran du bas, il est relativement petit. Je pense que ça pourrait tenir sur la Switch comme ça. Hein.
Ah, si peu.
Et en plus, t'auras l'écran tactile en bas.
Mm-hmm. T'as un bumper pour étirer l'écran comme si.
Ah putain, ce serait assez dégueulasse.
Comme sur Game Boy Advance.
Tu pourrais imaginer d'avoir un truc dans lequel tu aurais plusieurs modes de vue en appuyant sur plus ou moins, par exemple. Ou sur le bouton, je sais pas quoi, où t'aurais l'écran du haut en grand et en scalé deux fois, et puis l'écran du bas en beaucoup plus petit, parce qu'en fait, il y a juste trois boutons dessus. Ou au contraire, t'aurais l'écran du haut qui serait plus grand et tactile, et l'écran du bas, qui serait en tactile plus haut, et l'écran du haut qui serait plus petit, machin. Ben, tu pourrais imaginer plein de modes de vision pour faire de la DS et de la 3DS sur Switch, après tout.
Oui, mais c'est pas le même proc.
Ah, c'est de l'arme aussi.
Ouais, mais même, les émulateurs de 3DS, ça fait longtemps qu'ils sont perfectionnés, non? Et il me semble que ceux sur Android, ils sont vraiment solides.
Ceux sur PC, ceux sur Android, oui, tout ça c'est solide, mais ça reste du ARM. Je veux dire, je pense pas que ce soit très compliqué de rajouter une surcouche. Mais
voilà. Ah oui, mais ARM, c'est Android aussi. Non, c'est pour ça que ça marche aussi bien, non?
La plupart des téléphones Android sont du ARM. Ouais. Ouais. Alors, sauf que là, ça doit être de l'ARM 7, alors que la Switch est de l'ARM 8 ou 9. Donc, t'as quand même des petites différences, mais bah, techniquement, je pense pas que ce soit si compliqué que ça à émuler. Non, ce serait. En plus, tu perdrais la 3D, stéréoscopique, auto-stéréoscopique que Nintendo nous avait vendu au départ comme étant le truc mirifique qui allait nous faire.
Vite abandonné.
Ouais, on va dire que la 2DS XL a été une expérience douloureuse. Bref,
c'est un peu un champ du cygne, non? Parce que finalement, elle a l'air très très quali, la console.
Elle est très très quali.
Et finalement, je sais, est-ce qu'ils espéraient vraiment que ça allait se vendre outre mesure? Est-ce que c'était pas plus histoire de mettre un point final à la lumière?
Je sais pas, je me dis que c'est peut-être bêtement. Alors je m'étais dit pendant un moment pour combattre le piratage, mais apparemment sur 2DS XL c'est un peu la fête aussi, donc voilà.
Elle est, en plus, non mais elle est grave abordable surtout la 2DS XL.
Mais je pense qu'en fait,
occasion on en trouve pour moins de 100€.
Mais je pense qu'en fait c'est peut-être beaucoup plus une question d'avoir une console budget dans ta gamme. Ce que Nintendo a fait très souvent par le passé, c'est-à-dire quand la Super NES est sortie, quelques mois plus tard ils avaient sorti la NES 2, la fameuse... Le top loader, notamment aux États-Unis et au Japon, qui était en fait une NES version budget, c'est-à-dire qu'elle coûtait à l'époque moins de 100$. Alors la Super NES était déjà sortie, certes, mais une console neuve, une NES neuve avec deux manettes qui coûte moins de 100$ et avec une librairie de jeux justement que tu peux acheter d'occasion ou neuf qui est gigantesque, bah, c'était plutôt la bonne affaire pour le consommateur, et Nintendo, ça leur permettait de continuer à dire, bah voilà, on a une présence sur le marché, même si c'est avec une console un peu secondaire, on est toujours là. Donc c'est pas idiot, hein, dans le principe. Donc je vois plus ça comme ça, moi, la 2DS XL, c'était plus l'espèce de modèle budget. Il doit coûter beaucoup moins cher à fabriquer, puisqu'il n'y a plus d'écran auto-stéréoscopique, donc si ça se trouve, les mecs, même s'ils le vendent pas très cher, ils font un bénéf de port dessus. Et en fait, voilà, il y a tellement de jeux sur 3DS que le fait d'avoir une 2DS XL, je trouve pas ça déconnant.
Une new 2DS XL.
Voilà. On va faire, je vais glisser juste un tout petit mot sur les conférences de l'E3 avant de marquer la première pause musicale. Je laisse la main à monsieur Mecton, puisque c'est le seul que ça intéresse.
Oh putain, attends.
Il n'y a plus personne à E3.
C'est ça, mais c'est un peu le sentiment que j'avais. C'est d'habitude, la hype commence à monter là dans ces eaux-là.
Voilà, c'était notre résumé des conférences de l'E3 de cette année. On va passer tout de suite à la pause musicale. Parce que tout le monde s'en fout, Sony n'est pas là, Nintendo n'est pas là. Et
non, mais voilà, c'est en vrai.
Il n'y a que Microsoft qui est là, qui va faire une conférence chiante, comme d'habitude.
Mais t'es où,
en vrai,
pas
pour
là.
L'instant, je ne sais pas ce que vous en attendez, mais ça s'annonce. Mais.
T'es où, là?
Alors, je peux vous faire le résumé de la conférence d'Electronic Arts maintenant.
FIFA,
encore plus réaliste, le ballon, loin, la conduite de bol.
Ah oui,
Star Wars Battlefront, ouais, voilà.
Nouveau jeu Star Wars, blanc. Ouais.
Voilà, c'est bien, Godwin Point. Les DLC, les Season Pass. Je suis très étonné qu'ils fassent pas de Season Pass pour FIFA. Hein. Ça continue à me
FIFA.
Bah non, parce qu'il y a FIFA Ultimate Team. Ça, c'est bias, quoi. Voilà, ça c'est fait.
Putain, comme on est condescendant.
Ah, mais c'est, enfin, je suis désolé. Enfin, l'E3, déjà l'année dernière, c'était quand même pas fou. Il y a deux ans, c'était pas foufou. Il y a trois ans, c'était pas foufoufou. J'ai l'impression que, effectivement.
Je crois que le dernier qui m'a plu, c'est 2014 avec l'annonce de Smash sur Wii U. J'étais si jeune à l'époque.
C'était si jeune et si innocent. Et.
T'avais mon âge.
Enfin, qu'est-ce que. On va probablement avoir le direct d'IS en Reggie. Putain, si Reggie fils aimé anime le direct d'Electronic Arts, je veux bien le regarder. Voilà, Reggie, si tu nous écoutes, big up. Donc oui, non, il va malheureusement pas se passer grand-chose. J'ai l'impression que la Game Developer Conference a récupéré énormément de choses beaucoup plus intéressantes et que en fait la plupart des éditeurs font maintenant de la com un petit peu toute l'année et qu'ils ont plus vraiment besoin d'un salon spécialisé et qu'ils préfèrent se concentrer éventuellement sur des petits événements. Genre je sais que PAX East, qui est un salon de jeux vidéo aux États-Unis, avait fait le plein de quelques éditeurs qui venaient montrer leurs jeux, et en fait je me demande si des événements plus petits, plus de proximité, notamment aux États-Unis, c'est quand même plus simple, c'est que ça coûte moins cher.
Ouais, ils laissent une couille à chaque fois.
Ouais, en plus, voilà, je veux dire, d'un point de vue, je suis pas sûr que ce soit hyper rentable.
Peut-être un peu moins depuis qu'il n'y a plus les babes.
Ouais, mais ça change rien, enfin.
Ouais, puis tu te fais. Je pense qu'il y a un plus gros backlash que ce que ça rapporte finalement.
Non, c'est que ça. Si. Tu au début, ton truc, c'était. T'es mort, quoi.
Ouais, mais enfin, surtout qu'au début, c'était pour les actionnaires. Donc les gars bossaient pas Je veux dire, tu regardes les premières conf 3, ça a rien à voir avec les shows que c'est aujourd'hui. Enfin que c'était, lol. Et au fur et à mesure, ça a glissé, vers un show pour les clients. Sauf que ça avait peut-être plus de sens en fait. Ça se retrouvait peut-être entre le cul entre deux chaises, quoi.
Effectivement, et au final, j'ai l'impression que la Game Developer Conference, qui est peut-être plus orientée, enfin qui est peut-être plus ouverte au sens où il n'y a pas des grandes conférences, mais il y a plutôt effectivement des keynotes qui sont animées par certains développeurs, il y a des éditeurs qui viennent présenter leurs nouveaux produits. Je pense que effectivement c'est quand même un peu plus l'état d'esprit, un peu plus ouvert. Voilà, tu peux avoir des journalistes, du grand public, des développeurs, des éditeurs. Ça ressemble plus effectivement à un salon des professionnels du jeu vidéo quasiment. Alors que l'E3 c'était un peu le bordel, et je pense que les mecs ont pu leur place. Alors ça restera un grand événement historique, mais avec des moments extraordinaires, mais c'est vrai que ça sent quand même pas bon. Bref, nous allons marquer une première pause musicale et on va se faire un petit plaisir pour les oreilles.
Qu'est-ce que tu nous as dégoûté?
Alors je vais dégoûter un truc qui sera moins une dégueulasserie que d'habitude.
Et non, on s'est fait striker sur Twitch.
Ah bon? Ah ouais. C'est génial. Bah voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Putain.
Replay avait un gros blanc en ce moment-là.
Un morceau qui s'appelle Castle Lololo de la bande originale de Kirby's Dream Land sur Game Boy. Voilà, c'est un jeu qui fait hyper plaisir. Et donc Castle Lololo, et vous allez en profiter, attention, en stéréo. Et oui, attention, mesdames, messieurs. Ça va.
Wow, 87, c'est une bonne année.
Ah ouais, non, mais c'est la folie. Hein, c'est la folie. Voilà, Lodrop, ça dure un tout petit peu moins de 2 minutes. On se retrouve tout de suite après. Voilà, de retour. C'était extraordinaire. Ah merci. Alors tour dans le chat, Mumble par Zergy, je dois vous avouer qu'il y a quand même un petit côté salé qui moi me fait plaisir. Donc on va parler un petit peu de Nintendo Labo VR, parce que alors on n'a pas tout monté. Alors, je précise donc.
Vice.
On n'a pas tout démonté non plus. Ça me fait plaisir. Moi j'ai monté juste les lunettes, ça me permettait de les lunettes et le truc de sécurité que j'ai trouvé. Alors, juste ouais, hilarant, c'est effectivement le bout de carton qui empêche ta Switch de tomber, je trouve ça juste génial. J'ai juste monté ça, et Mecton, t'as monté l'appareil photo.
Et l'appareil photo en plus, je voulais me lancer dans le canon, mais j'ai pas eu le temps.
Voilà, alors j'ai pas fait ça avec les enfants, je l'ai monté tout seul moi, les lunettes, parce que je voulais que ça aille un petit peu vite. Par contre, je leur ai fait essayer. Donc c'est toujours assez rigolo. Donc comment ça se présente en fait? Basiquement, à l'intérieur du kit labo, il y a un petit carton dans lequel il y a une espèce de petite paire de lunettes. Ça ressemble beaucoup au Google Cardboard en fait.
Exactement.
Dans le principe. Non, Zergy, ils ont pas vomi. Par contre, ils étaient quand même un peu... Ils ont exactement le même problème que moi avec la VR, hein, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc tu as un petit bout de plastique sur lequel il y a deux grosses loupes. Et il y a bien écrit, faut pas regarder le soleil avec, faut pas les mettre à la lumière, parce que c'est vraiment
rire.
Des loupes.
Ouais.
Donc, ils t'ont fait rire avec quoi?
Bah, ne regardez pas le soleil avec les lunettes.
Bah, c'est dangereux, hein.
C'est la clause Donald Trump.
C'est un peu ça. Mais je pense qu'ils sont obligés de l'indiquer, en fait, bêtement. Et donc, une fois que t'as mis tes gros doigts dessus, dégueulasse, sur les deux verres, là, qui sont... Parce que ça arrive.
Tu le chat, perso.
Oui, voilà, c'est ça. Tu le montes dans un bout de carton. Alors, malheureusement, il n'y a pas de strap pour te le mettre autour de la tête.
Alors... Et ça, je pense qu'ils l'ont fait exprès.
Je pense qu'ils l'ont fait exprès pour que tu te reposes une fois de temps en temps. C'est mon hypothèse. On avait déjà plaisanté il y a quelques années sur le dojo avec la Switch, il y avait Méduse qui s'était scotché une Switch autour de la gueule en disant c'est facile de faire de la VR. Et ça ressemble un peu à ça, hein. Je suis désolé, c'est assez rigolo. Donc tu glisses ta Switch à l'intérieur de cette lunette là, elle détecte automatiquement, et je ne sais pas comment elle fait, ça me saoule de pas savoir, de pas arriver à comprendre.
Je pense vraiment qu'il y a un capteur de proximité. Ouais. Ça ou le petit bordel, tu sais, les petits straps anti-dérapants là qui
touchent l'écran à un certain endroit ou je sais pas quoi.
Ouais, je sais pas. Parce que tu as vu, il y a le trou pour glisser ton nez.
Oui.
En permanence, tu as deux petits boutons là à l'intérieur.
Ouais, j'ai vu, ouais.
Et d'ailleurs, tant que j'y pense, sinon je vais oublier, si vous portez des lunettes, c'est confort. Ça passe sans problème. Ouais.
Il y a des mecs qui avaient dit, j'avais lu sur Reddit, il y a des mecs qui disaient, moi j'ai des lunettes très épaisses et en fait, ça, je touche vraiment les.
Il y a large la place.
Les bords, mais en fait, je pense que c'est vraiment des cas.
Si vous avez le blaire de Cyrano, ça va être chiant, mais.
On a une question, une question du chat. JBC qui nous demande est-ce que la VR fonctionne en docké.
C'est une excellente question, je vous remercie de l'avoir posée.
On ne se moque pas du chat.
Si et ça va aller avec ta question suivante.
Attendez, je crois que le principe d'être sur Twitch, c'était d'insulter le chat en permanence. J'ai bien compris. Alors.
On la glisse dans le carton.
Donc on la glisse dans le carton, elle passe en mode VR. Si tu colles ta gueule à la télé, ça marche. Merci, Zergy, c'est possible. Si tu as une toute petite télé. Attendez. Mais quel est l'intérêt du... Pardon. Alors, en fait, tu...
glisses ta console dedans.
Tu glisses ta console dedans. Et donc, en fait, les lentilles, le grossissement des lentilles, la façon dont va fonctionner le calcul de la 3D dans la Switch et ce que va te présenter les écrans, c'est-à-dire qu'en fait, elle coupe vraiment l'écran en deux et elle fait deux ronds.
Oui, il y a une petite animation marrante, il y a une transition.
Ouais, voilà, t'as une espèce de... Comme ça fait comme une cellule qui se sépare, comme ça, c'est assez rigolo. Et en fait, tout est calculé pour l'utiliser avec le kit de Nintendo. Alors, ça veut pas peut-être dire qu'avec un Google Cardboard, ça pourrait peut-être marcher, même si la Switch est, à mon avis, un petit peu grande pour ça. Ça peut probablement marcher avec plein d'autres trucs, mais finalement, comme là, le Google Cardboard, c'était cette idée-là, hein, c'était de dire avec n'importe quel smartphone que tu glisses à l'intérieur, tu as quelques applications VR qui fonctionnent parce qu'il y a un bout de carton, il y a deux lentilles, et puis c'est réglé. Et en fait, c'est exactement ce qu'a fait Nintendo. Ils n'ont pas réinventé le gouvernail.
Surtout pour une console, ça aurait pas de sens.
Ah, je sais pas, Sony l'a fait. Avec le PSVR. Tu veux qu'on en reparle? Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Il y a toute une collection de mini-jeux, donc il y a plusieurs trucs à monter. Donc il y a l'appareil photo, il y a le fusil,
l'éléphant,
il y a le cul de l'oiseau.
Ouais, putain, oui. Et la pédale avant.
Et la pédale
avant. La chaise.
La chaise?
Oui.
Une chaise?
Une suite de position de gars.
Je pense la merde parce que vous balancez des mots au hasard.
Non, c'est pas des mots au hasard, c'est la réalité.
Je participe, hein.
C'est la réalité. Pas... Donc voilà, donc c'est comme d'habitude avec Nintendo Labo, c'est plutôt fun à monter.
Ah, mais c'est excellent.
Le garage VR a l'air d'être totalement pété du slip.
Je l'ai juste ouvert, j'ai vu le nombre de conneries qui me venaient en tête, j'ai dit ok, je vais y passer un week-end. Quoi.
Le garage VR, c'est quoi?
Alors on me dit tu touches les bords, titre. Je transmets ce que me dit Muse, elle me dit voilà, tu touches les bords, titre, je suis d'accord.
Le garage VR, c'est ce que tu avais dans les précédents kits. En gros, c'est un mode labo où tu peux démonter les jeux qui sont proposés, voir comment ils sont branlés et faire les tiens à la place. Quoi.
Oui, et puis tu avais tout le système de pseudo-programmation par bloc.
À la Scratch, pour ceux qui connaissent.
Ah, ça, d'accord, voilà. Ok. C'est,
et en fait, tu as des mecs qui avaient recréé l'intégralité de Doom 4 à l'intérieur de Nintendo Labo.
Yes.
Un mec qui avait
personne,
un...
Je tente de lancer une rumeur pour voir que personne ne proteste, donc je me dis que ça ne va pas se...
Non, mais tu avais des bordels, des mecs qui se faisaient des machines à sous, des trucs qui ouvraient les portes.
Oui, il y avait un mec qui avait fait une caisse enregistreuse avec des vraies pièces. Alors sur chaque pièce, il y avait un petit bout d'aluminium différent qui faisait ça reconnaissait le prix. Enfin, c'était assez fou quoi. Quand tu... Les mecs qui faisaient des trucs avec le labo VR, qui était... enfin avec le labo avec tout le... court, qui était assez ouf. Et ouais, le garage VR, il a l'air bien pété aussi. Ça a l'air d'être, ça va être l'usine à conneries comme d'habitude.
Tout ça pour dessiner des bits en 3D. Mais...
Bah attends, j'ai pas encore fait l'éléphant.
L'éléphant.
Je pense que il va y avoir des dessins de tub en 3D. Hein. Ça va être, ouais, c'est dommage qu'on puisse pas le twitcher parce qu'effectivement on est quand même obligé de l'avoir sur la gueule quand c'est docké. En fait, la console refuse de passer en mode VR.
Ouais.
Faut quand même le savoir. Alors je sais pas si les mini-jeux seraient accessibles sans VR. Je pense qu'ils perdraient un petit peu de leur intérêt.
Ah, ils sont vraiment mini les jeux.
Alors voilà, il y a le gros morceau du truc, en tout cas quand t'as juste fait les lunettes, c'est le VR Plaza, dans lequel tu as plein de mini-jeux où tu as un bonhomme VR que tu peux trimballer. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a très peu de jeux à la première personne.
Ce sera le prochain personnage dans Smash.
J'espère que ce serait cool. Franchement, ce serait cool, il est cool le mec. Mais t'avais des mecs qui avaient proposé comme personnage de Smash, le bonhomme en carton VR que tu peux faire vibrer et qui tombe.
Avec le Joy-Con dans le dos. Ouais,
je trouve ça juste excellent. Je pense que ça pourrait effectivement être un perso Smash. C'est à peu près aussi pété que Mr. Game & Watch hein, quand il réfléchit. Donc.
C'est vrai.
Donc ça pourrait être très rigolo. Voilà, donc le VR Plaza, pour reprendre là-dessus, c'est des jeux qui ne sont pas à la première personne, étonnamment. Tu peux regarder autour de toi, évidemment, à 360 degrés. Tu peux même regarder. Moi, ma gamine, à un moment, elle était vraiment en train de... Enfin, elle regardait vraiment derrière elle. Je ne sais pas ce qu'elle avait vu derrière elle, mais elle était vraiment complètement tordue sur le canapé à essayer de regarder.
L'exorciste, le début. Voilà.
Mais non, mais attends, elle a regardé entre ses jambes le truc. Enfin, tu vois, elle a regardé entre ses jambes pour voir
ce
qu'elle
avait derrière.
Voilà, à l'envers. Excellent. Et en fait, ça marche. Puisque... mais tu sais, il y a que les gamins.
Et on ne sait pas comment. Pareil. Mais...
Si, il y a un gyroscope dans la Switch, j'en suis sûr.
Bah, je vois que ça. Parce que oui, c'est... on pose les Joy-Con sur la table et le truc réagit quand même.
Tu peux regarder autour de toi juste avec la Switch. Donc,
uniquement
donc
l'écran dans le casque.
Et alors, tous les jeux se jouent avec un seul Joy-Con.
Oui, parce que l'autre tient le casque.
Parce qu'en fait, avec l'autre main, t'es obligé de tenir le casque. Tu me disais, il n'y a pas de strap et tu pensais savoir pourquoi.
Je pense que c'est la politique Nintendo de pas faire peur aux parents qui achèteraient ça à leurs gosses, qui pourraient penser que, mon Dieu, ils vont s'enfermer dans un monde virtuel, plus faire la différence, ne jamais en sortir. Là, tu
et
lâches la main, le truc...
Ouais. Devenir accro au porno sur le... Oh putain.
Et il n'y a encore pas de navigateur.
Hein. Ah merde. Oui. Allez, peut-être un truc à tenter.
Ouais. Bah voilà, là tu le tiens d'une main, donc si tu te sens pas bien,
ah bah du coup,
ou t'as envie de faire une
disponible,
pause,
c'est bon.
Mais parfait.
Putain, en fait,
vivement Nintendo, le prochain kit.
Nintendo a fait une meilleure VR que Sony, simplement parce que s'il y a du porno, bah, tu tiens ton casque de la main gauche, tu peux faire ce que tu veux avec la main droite, c'est réglé.
C'est Peggy 3, hein, le Nintendo Labo.
Ouais, mais attends, l'internet c'est pas Peggy 3. Hein.
Tu sais, les jeunes sont précoces maintenant.
Oui, j'y vais. C'est...
Alors, on demande si, est-ce que si on meurt dans Nintendo Labo, on meurt dans la vraie vie. Je pense que oui. C'est une excellente question.
Mais donc du coup, vous avez testé quoi comme accessoire, voilà.
Il y a une cuisine où je me suis éclaté à ouvrir les placards, à foutre le bordel. Voilà, j'ai fait ça. Un bout de truc de baseball où j'ai mis du temps à comprendre que quand j'appuyais sur le bouton, il y a une balle qui me popait devant et que la cible à abattre était sur ma gauche. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Il y a le football, l'espèce de foot, de tennis foot en salle, qui est
pas
assez
fait,
marrant.
Celui-là.
Il est dans le vert Plaza, celui-là.
D'accord. Il y a un petit truc avec une bagnole à balader, à shooter des piles de blocs qui se cassent la gueule un peu partout autour de toi.
Alors ludiquement, c'est pas fou, ça reste vraiment une collection de mini-jeux. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont effectivement en VR, donc en 3D relief, mais où tu peux aussi bouger la tête. La résolution est extrêmement faible.
Oui.
On s'y attendait. Oui. C'est flou, mais pas... Enfin, moi, j'avais essayé une des premières versions de l'Oculus Rift. C'était pas beaucoup moins flou. Hein,
c'était équivalent.
Donc voilà,
je retrouve l'article où j'avais foutu un peu les stats.
Ouais, apparemment, ça va. Finalement, c'est ce que j'avais dit il y a quelques émissions, que c'était vraiment ce qui me faisait peur, la résolution. Mais apparemment... vraiment,
après, voilà,
voilà quoi. C'est cool parce que la résolution... pas ouf, est compensé par le fait que les lentilles soient un peu grossières et par les graphismes qui sont, c'est du Nintendo, donc
oui, c'est hyper simpliste.
T'as pas besoin de trucs détaillés, quoi.
T'as un gros anti-aliasing dessus aussi, alors qui rend l'image encore plus douce, finalement, encore moins. Tu vois, c'est pas une image hyper précise.
Oui.
C'est très. Mais vu qu'effectivement,
c'est pour une fois qu'ils utilisent de l'anti-alias.
Mais ouais, non, mais c'est que des gros blocs. C'est que des trucs avec des bouts arrondis, c'est que des aplats de couleurs ou quasiment.
Et c'est des expériences très courtes.
Et c'est effectivement des expériences très courtes. C'est-à-dire que même mes enfants, en fait, au bout de 5 minutes, ils avaient envie de changer de jeu. Ça tombe bien parce que ça permettait de dire, écoute, tu vas le passer à ta sœur, tu vas le passer à ton frère. Mm. Ça permettait d'éviter qu'ils le jouent trop longtemps. Et ils ont le même problème que moi, qui est la descente, qui est un truc.
Moi, j'ai pas eu, du coup.
Ah, moi,
mais
j'ai
du
eu,
fait de pouvoir me l'écarter de la gueule régulièrement, je pense que ça aide.
Alors, je l'ai moins eu, je sais pas pourquoi. Alors, peut-être parce que les jeux bougent. Enfin, que j'avais moins besoin de bouger la tête, en fait. C'est peut-être ça.
Le verbe à trip, disait
Régis. C'est ça. Mais moi, c'est ouf, j'ai pas du tout ça, moi.
Moi, ça me l'a fait. Mais en fait, il y a plein de gens qui réagissent différemment. Je prends. Ouais. Ma femme ne voit pas du tout la 3D. Elle a un problème sur.
Non, oui,
elle,
t'as des gens comme ça.
Elle est borne.
Elle a un problème sur un de ses yeux. Elle est pas borne, mais elle a vraiment un problème de vision sur un de ses deux yeux. attention, ne la provoquez pas. Elle est vénère.
Tu me fais engueuler à distance.
Non, Pupus, c'est bon, tu peux.
Unleash hell.
Bref, donc ma femme ne voit pas du tout la 3D, donc c'est vrai que c'est l'intérêt est hyper limité. Mais oui, moi, j'ai vraiment un problème avec la descente, c'est-à-dire que l'Oculus Rift, la première fois que je l'ai essayé, j'ai dû faire un quart d'heure et j'ai passé 5 minutes assis avant de pouvoir me lever, quoi. Je veux dire, c'était vraiment.
Ah ouais.
Ouais, moi
ah ouais,
c'est Dark Souls qui me fait ça.
Pour d'autres raisons.
D'accord, je confonds des pseudos. Drosgar, t'as testé toi déjà la VR? Pas forcément la Beauvert, mais.
Non, on avait testé une fois, c'était tous les deux, c'était quand on était allé voir l'exposition de Jean Z avec le PSVR, et c'était l'animation justement, on était un aigle, c'était le petit jeu, même si je sais pas si on peut appeler ça un jeu, mais c'est toujours le même débat. Voilà, l'expérience d'Ubisoft, où on passait au-dessus de Paris, je crois, enfin c'était assez sympathique, mais...
T'as pas eu de problème après, genre?
Non, j'ai pas eu de problème après.
Non, ouais, c'est bizarre. Ouais, parce que moi, pareil, le seul effet que ça me fait, la VR, en fait, c'est... Tu sais, c'est con, c'est quand t'enlèves, tu fais « Ouais, c'est beau la vraie vie !» Tu sais, tu fais « Putain, la résolution, elle est quand même pas mal !»
Ça m'arrive moi, quand je lave mon pare-brise, ça, mais... je me dis toujours « Ouais, putain, cet écran, il est vachement propre
!» Waouh, c'est moi de la 8K.
Ça me rappelle une fois où, avec un de mes colocs, on rentrait, on était bien, bien fatigués. On rentrait au petit matin d'une LAN très très longue et on passait au bord de l'Oise à Compiègne. Et à un moment, il y a mon coloc qui dit « Putain, elle est super bien modélisée la flotte. Mec, je comprends que t'as les fourrants, t'es rompillé. »
C'est exactement ça. Hein. Genre, c'est le seul effet que ça me fait, moi.
Mais ça... c'est fou comme la vraie vie, elle est mieux modélisée que la vidéo.
Tu sais, tu fais « Oh putain, c'est... pourquoi c'est trop bien pas ça, quoi ?»
Putain, il y a de l'anti-aliasing en plus.
C'est cool.
Moi, quand j'enlève mes lunettes, il y a un sacré anti-aliasing. Hein,
Ah ouais, non, moi je sais pas, c'est l'échelle de résolution qui est pas conforme, genre je dois passer à 25%. Mais donc du coup, Nintendo Labo, donc validé par l'équipe du dojo.
Pour l'instant validé au sens où ça marche. C'est pas si dégueulasse que ça.
Validé au sens que j'ai réussi à allumer ma Switch.
La VR fonctionne. C'est comme d'habitude avec Nintendo Labo, plutôt ludique. Je pense que c'est une bonne idée que Nintendo l'ait mis dans Nintendo Labo, parce que s'ils avaient vendu juste les lunettes à part, même pour 10 balles ou pour 20 balles, je suis pas certain qu'ils auraient réussi à le vendre. Là, le fait qu'ils proposent plein de mini-jeux très courts, ça fait que tu n'as pas de maux de crâne, de problèmes d'équilibre, de machin, de mal aux yeux. Il y a des gens, ça leur fait mal aux yeux, ça leur tire sur les yeux, quoi, vraiment. Donc il n'y a pas ce problème-là, et c'est bien foutu. J'ai très très hâte d'essayer Zelda, j'ai très peur que ce soit beaucoup...
J'allais poser la question. Ouais.
Voilà. Que ce soit un trip, on en parlera peut-être, on fera peut-être 5 minutes dans 2 semaines là-dessus, j'ai peur que ce soit un trip beaucoup plus limité, ne serait-ce que parce que pour tenir les lunettes en même temps que la manette, machin, ça va être le bordel.
Mais il y a des designs après d'élastiques qui se trouvent en ligne même.
Un design d'élastique, putain.
Ouais, mais...
Ouais. Y a des...
mais voilà, non, alors, y a des non Zelda ne sera pas en vue à la première personne, ça va être... Mais comme la plupart des jeux labo sont pas en vue à la première personne. Hein.
Sauf l'appareil photo.
Mais je pense que le truc où tu dessines des bits aussi, des bits en 3D, hein, bien sûr.
Ouais, y a moyen.
Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Je non, pense c'est... que ça va beaucoup plus ressembler à du bonus. C'est-à-dire que si t'as envie de l'essayer, tu l'essayes. Finir tout le jeu comme ça, à mon avis, c'est ça va être sport. Ouais. Donc, pourquoi pas? Après tout, je sais pas si ça va faire mal à la tête ou pas. Il y a un autre truc que je trouve assez excellent. Je sais pas si t'avais remarqué, Mecton. Le son sur la partie lunettes vertes est impressionnant.
Oui, c'est clair. Et je pense, tu vois, je l'ai sous les yeux, il y a tout petit espace. D'ailleurs, ils ont prévu le trou pour les écouteurs, c'est cool.
Comment ça, le son?
Alors, en fait, t'as l'impression qu'il y a une petite caisse de résonance.
C'est ça. Quoi. Le son est spatialisé d'une certaine manière. En fait, quand tu tiens ton Nintendo Labo dans ta main, enfin, que t'as le kit vert sur la gueule, tu le tiens de ta main gauche ou de ta main droite, c'est, voilà, tu fais comme tu veux. Quand tu fais ça, en fait, tu entends le son qui est spatialisé. C'est-à-dire que t'as un ballon qui rebondit sur ta gauche, tu l'entends à gauche. Mais vraiment dans ton oreille gauche. Je trouve ça assez ouf.
Mais juste le son de la console. Hein,
juste le son de la console, sans casque, sans rien. Hein.
Ah ouais.
Alors je me dis, c'est connard chez Sony, ils n'ont pas réussi à le faire. C'est connard chez Oculus, ils n'ont pas réussi à le faire. C'est connard chez HTC Vive, ils n'ont pas réussi à le faire. Et il faut que tu branches un casque audio que tu vas brancher sur un cordon de jack, je sais pas où. Et c'est le bordel.
T'es mauvais. Ben non, en vrai, les nouveaux.
Non, vu le prix, non.
Les nouveaux, ils viennent peut-être avec un casque audio.
On a beaucoup. Attendez, parce que je sais pas si je peux dériver sur Oculus.
Dérive, c'est pas trop grave.
Ok. Récemment, je veux dire, plus généralement, j'allais parler de l'Oculus Quest, donc le modèle, si vous savez pas, 400 dollars d'Oculus qui est autonome.
Donc Nintendo Labo.
Et qui fait tourner les principaux jeux VR, quoi. Donc c'est Beat Saber, Google Draw, il y avait quoi d'autre, Super Hot, ce genre de jeu. Et il a aussi des dans les élastiques, il a des haut-parleurs. Enfin, ce qui fait que ça te renvoie le son dans l'oreille indirectement. C'est-à-dire que c'est pas au niveau de ton oreille.
Oui, mais c'est
le son dans les yeux, ça marche pas.
C'est à peu près ça, sauf que les haut-parleurs sont orientés vers ton oreille. Mais oui, en soi, c'est situé quasiment au niveau de tes yeux.
Mais voilà, le principe du kit VR, c'est que là, même si les haut-parleurs sont dans la console, ils projettent le son d'une certaine manière qui fait que tu l'entends vraiment super bien dans tes oreilles.
Oui, alors, c'est assez ouf. Et surtout que du carton pour le son, ça doit pas être. Enfin, je sais, je m'y connais pas en carton.
Au contraire, le son va vachement bien résonner dans du carton puisque c'est creux. D'accord. Et puis en plus, comme s'il est double cannelé, il est double creux. Mais je pense que les mecs ont vraiment étudié le truc pour faire des enregistrements audio ou de la spatialisation du son de sorte à ce que ça marche. Et ça marche super bien.
Alors,
Mecton, tu voulais finir sur une connerie?
Oui.
Attends, pardon, excuse-moi, Galaxy.
Non, mais je sais pas si Mecton. Ce que j'ai demandé, est-ce que vous pensez qu'on allait. Que ça va se redémocratiser, du coup, la VR? Est-ce que c'est maintenant que ça va prendre son appui?
Je ne pense pas.
Modèles de l'Oculus qui sont beaucoup plus abordables.
Ça, c'est mort.
Rift et tout. Ah, sérieux?
400 balles, ça fait deux consoles.
Oui. C'est 400 balles et pas besoin de PC à côté, pas besoin de câble, t'as les manettes dedans, pas besoin de caméra à placer, c'est vraiment juste ton câble.
Ouais, mais je pense que c'est trop tard. C'est trop, enfin, trop
juste
peu.
Ton casque, pardon.
Moi, honnêtement, je pense que c'est trop peu, trop tard.
D'accord.
Trop peu en contenu, tu veux dire, contenu de jeu?
Non, trop peu au sens.
Les jeux, il y en a pas mal, hein, maintenant.
Ouais, mais trop peu d'avantages, j'aurais dit, et trop tard. Je veux dire, la VR, le train est passé, c'est fini.
Ah ouais, d'accord.
Je pense honnêtement que ça intéresse plus personne. Et voilà, c'est mon avis personnel. Hein. Je pense qu'effectivement, comme la 3D au début des années 2010, ça va gentiment s'éteindre. Alors peut-être qu'il y aura toujours des trucs qui sont développés avec une option VR. Oui, c'est ça, la VR, c'est saut 2018. Mais je pense que ça va s'éteindre. Par contre, Nintendo a quand même joué un gros coup parce que c'est peut-être ceux qui vont avoir la plus grosse base installée de VR, alors que finalement, ils ont sorti un putain de bout de carton, quoi. Et j'ai l'impression quand même que là, c'est une espèce d'énorme doigt d'honneur qui leur vaudra peut-être une garde à vue de 48 heures, une inculpation pour, d'aller casser la gueule à des gens en groupe.
C'est réunion en vue de...
Ah oui, c'est réunion en vue d'aller faire des infractions, éventuellement d'avoir des... Voilà. Ouais. Non, mais je pense que Nintendo a taillé le cul à tout le monde là-dessus et on en restera, à mon avis, là. Il n'y aura pas autre chose sur le sujet. D'accord. Voilà. On va se faire une deuxième pause musicale avant la connerie de Mecton. Voilà, donc la connerie de Mecton.
Écoute ça. Tu entends?
Oui, c'est l'appareil photo.
C'est l'appareil photo. Ils ont prévu.
y a une petite molette et tout ça.
Il y a une petite languette en carton qui fait clic-clic quand on tourne l'objectif.
C'est génial, j'adore ce truc. J'adore Nintendo Labo, c'est vraiment génial. Bref, nous allons écouter un petit morceau de la bande originale de Super Mario Land 2. Et inénérable jeu, peut-être le meilleur jeu de la Game Boy.
Tout à fait.
Je laisserai nos auditeurs en décider. On va écouter un morceau qui s'appelle Athlétique et qui en fait correspond au niveau où tu cours, tout bêtement. C'est pour ça qu'il s'appelle Athlétique. C'est, voilà, c'est utilisé dans plein de niveaux. La bande originale de Super Mario Land 2 n'est pas hyper diversifiée. Il y a la musique de fin qu'on avait déjà mis, qui est un truc. Moi, ça me fait toujours voyager. Là, c'est, on va dire, le niveau un petit peu plus standard, mais c'est rigolo. Et pareil, profitez-en, vous avez de la stéréo. Stéréo.
Et pas de VR, voilà. Désolé.
Et pas de VR, désolé. Alors, par contre, Super Mario Land 2 VR, moi, je suis pour. Pourquoi pas? Voilà, bon, ça dure un tout petit peu moins de 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour.
Marche pas. Nous allons donc parler des 30 Tour. Ans du Game Boy.
Là.
Compliqué.
La Game Boy.
Il fait chier. Donc c'est les 30 ans de la Game Boy, du Game Boy au Japon. La machine légendaire de Gunpei Yokoi qui durera quand même. Pratiquement 10 ans avant une autre révision, il me semble, puisque le Game Boy Color, ça date de, oui, pratiquement 10 ans, en fait, c'est un peu la folie. Je sais pas si vous vous rappelez de...
Sauve-toi.
Vous rappelez de l'impact totalement fou qu'a eu la Game Boy sur le marché du jeu vidéo. Parce que bon, avant, le jeu vidéo, c'était, fallait aller descendre ta console sur la télé du salon, fallait aller la brancher. Il y avait ta maman qui disait que fallait surtout s'arrêter à 5h30 parce qu'elle voulait regarder Dallas.
Fallait
quand pédaler. On n'avait pas de basket, on avait des sabots, hein, je veux dire.
Les chaussures, c'est pas mal, hein.
Non, mais t'attends, déjà, fallait... les pieds. Et puis à Noël, on avait juste une orange. Non, mais c'était quand même un peu galère. Et là, tout d'un coup, la Game Boy, c'était merde. Tout d'un coup, on a des jeux. Alors, effectivement, c'est pas la même expérience que le jeu de salon. C'est du quadrichromique. Mais c'est quand même de la stéréo. C'est quand même du niveau de la NES. Alors, c'est une résolution très basse, mais ça reste quand même des vrais jeux sur des vraies cartouches que tu peux vraiment prêter à tes potes qui te les rendent pas. Julien, si un jour je te retrouve, je te casse la gueule. Parce que mon RC Pro M sur Game Boy, j'y tenais beaucoup.
Il mérite.
Et t'es qu'un gros fils de pute. Voilà.
C'est pas gentil.
C'était pas Julien Chiez, je précise. Mais tous les Juliens que je connais sont des connards, du coup, ça me fait plaisir. Oui.
L'origine du bullying.
L'origine du mal, tu sais, le truc, voilà. Donc, la Game Boy, ça a été quand même une petite révolution, même si, moi, le seul truc que j'aurais à lui reprocher, c'est que j'avais un peu l'impression que c'était une NES portable. C'est-à-dire que t'avais quand même beaucoup... de jeux un peu Frankenstein qui étaient adaptés, je pense notamment à DuckTales. Alors t'as DuckTales et DuckTales 2 sur NES, et en fait la version DuckTales sur Game Boy, elle reprend des niveaux de la version NES, des niveaux de la version, des niveaux du premier jeu sur NES, des niveaux du deuxième jeu sur NES, elle mélange un peu tout, elle est raccourcie. Enfin voilà, t'as des jeux qui étaient quand même pas toujours hyper adaptés, mais t'as aussi des petits bijoux sur Game Boy, et on peut citer évidemment Tetris, hein, version portable de Tetris. Je pense que ça, c'est aussi ce qui a aidé à en écouler des cajots et des cajots. Mais tu as Super Mario Land 2, tu as Kirby's Dream Land 2, Gargoyle's Quest, Kid Dracula... Mystic Quest, la version Game
aimé,
Boy,
hein.
C'était bien, mais c'est Ken Densetsu, en fait.
Oh putain, comment l'oublier ? Zergy.
Zelda Link's Awakening.
Zelda Los Angeles. Comment l'oublier ?
Stop. Metroid 2, alors même si c'est un peu particulier, mais Metroid 2 était très adapté en fait à une console portable. Ça marchait très bien. Voilà, il y a quand même quelques jeux de légende, et ça reste une machine de légende. Je veux dire, au cours des années 90, c'était vraiment l'accessoire indispensable dans la cour de récré, le truc que tous les gamins avaient. C'était hyper abordable parce que ça coûtait $89.
Et Pokémon.
Voilà, il y a eu Pokémon, ça coûtait en France. Alors je crois qu'en France, elle est sortie à 650 francs, 649 francs.
Oui. Je m'en rappelle bien.
Ça, qui était hyper abordable. Les jeux étaient vraiment pas chers, puisque t'étais à 200 ou 250 francs le jeu, si je me rappelle bien. Ce qui est vraiment pas cher par rapport à un jeu... Les jeux NES étaient aux alentours de 400 ou 450 balles. Et les jeux Super NES, c'est... quand c'était Nintendo, c'était 450 balles. Quand c'était les éditeurs tiers, c'était plus aux alentours de 500 francs. Donc 500 francs le jeu, ça fait quand même un petit peu mal au cul, calculé avec l'inflation, vous allez voir, c'est... Ça fait très 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 mal. Et puis, bah ouais, tu pouvais l'emmener en colonie de vacances sans emmener un stock de piles ou être actionnaire d'Energizer. Non mais voilà, faut quand même être honnête. Et je sais pas, j'ai joué quelques dizaines d'heures sur Game Boy. Donc ce que je vous propose, quelques centaines d'heures même. Moi, c'était ma première console. Hein.
Oh putain. Une
grande nostalgie.
Okay.
Ce que je vous propose, c'est que chacun raconte une petite anecdote sur le Game Boy. Game Boy ou Game Boy Color, hein. Je tolère le Game Boy Color pour les gens qui effectivement n'ont pas connu la merveilleuse brique grise qui était à peu près indestructible et qui permettait de jouer à un peu tout et n'importe quoi en portable. Drosgar, si tu veux bien commencer, un souvenir, une anecdote, un jeu qui t'a marqué sur Game Boy ou Game Boy Color.
Alors, comme vous le savez, je suis un putain de post-90. Donc déjà, on part mal pour le Game Boy en sachant qu'il est sorti en 90 en France. J'ai dit Game Boy pour faire plaisir mortal, hein, mais en soi, je dis toujours là, dans la vie classique. Donc, je suis né en 95, mais lorsque j'étais en grande section, donc en 99, je dirais, j'ai eu un accident de trottinette. Oh, pas de trottinette électrique. C'est-à-dire que je me suis éclaté le coude par terre dans la cour de récréation et j'ai donc perdu la course. Ma mère était contente hein, parce que ma chemise n'était pas déchirée, donc je pleurais, mais c'est pas grave, j'étais un bon garçon. Et à l'hôpital, on m'a offert le Game Boy Color violet transparent.
Ça c'est très 90.
Voilà, avec en unique jeu à ce moment-là, Spirou Panique Mécanique. Parce que voilà, mon père adorant les BD, c'était forcément voilà un lien entre les jeux vidéo et un univers qu'il connaissait, c'était forcément bien. Le jeu était bon, hein, il était dur, mais il était bon. C'est ouais, faut pas ressortir ça du contexte.
Ça, c'est un syndrome de Stockholm.
Et donc à cette époque, vu que j'étais en maternelle, je ne savais pas lire. Donc autant pour des jeux plateformes, il n'y a pas trop de soucis, mais autant lorsque mon cousin m'a prêté Pokémon Rouge, c'était très compliqué. Donc autant vous dire que bah, j'y allais un peu au talent. J'essayais de bouger un peu au hasard. Et c'était
Le talent, un petit peu le pif.
Ouais, c'est ça.
C'est le début de la légende, un petit peu, de Drosgar, l'homme du pif.
Surtout qu'il m'avait dit « Ouais, tu sauvegardes pas, parce que c'est ma partie. » Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai sauvegardé. Bah, il m'a défoncé ma race. Bah oui, forcément, moi, j'appuie au hasard. Donc je me suis dit « Bon, ça a l'air sympa, ça. » Et du coup, ça me rappelle quand même beaucoup de souvenirs, parce que c'est, moi aussi, mortal, mes débuts de jeux vidéo. Donc même si mon père avait une Master System qui traînait au grenier, j'ai jamais trop touché à ce moment-là. Et j'ai ce souvenir de mes parents qui m'ont gueulé parce que je n'y jouais pas assez. Et ils m'ont dit « On t'a pas acheté une console pour que tu joues pas. »
Énorme.
Et quelques années après, c'était l'inverse. Hein. Bien sûr, je jouais trop aux jeux vidéo et forcément, je me suis engueulé aussi. Mais c'est vrai que j'ai ce souvenir de mes parents qui m'incitaient à y jouer en me disant « Mais si, sors un peu tes livres, essaie de voir autre chose. » Donc c'était assez sympa. Et du coup, après, une fois que j'ai commencé à lire, j'ai eu le doigt pris dans l'engrenage. J'ai commencé vraiment à jouer au Pokémon et à plein d'autres jeux. Et là, c'était très très bien et je n'ai jamais quitté les jeux vidéo depuis.
Une bien belle histoire. Une bien belle histoire. Une vraiment bien belle histoire.
Qui s'achèvera par ma mort.
Probablement. Mais après l'émission, si ça te dérange pas.
Chat se fout de ta gueule en te demandant si c'est toi qui a balancé une Master Ball sur un Rukul.
Non, quand même pas. Non.
Galaxies, qui alors n'a pas connu la Game Boy d'origine parce que tu es un mauvais garçon qui est né beaucoup trop tard.
Et
tu
oui,
es né
moi,
après
j'ai...
Internet, et ça c'est triste.
J'ai grandi avec la Wii, moi.
Ah putain, ça c'est cool en fait. Je me rends compte qu'en réalité c'est cool. Donc par contre, Game Boy Color, tu as connu.
Oui, très très bon souvenir.
Est-ce que tu as une anecdote, un truc, un souvenir?
Absolument pas. En fait, c'est assez. Non, c'est. Le truc, c'est que c'est assez compliqué parce que, genre, la Game Boy Color, je crois que je l'ai toujours laissé un peu de côté parce que, en même temps, j'avais genre la Wii et le PC. Du coup, voilà. Et j'avais pas de vrai jeu dessus, genre. J'avais un jeu licence Taz, Diable de Tasmanie, pas Ecstasy, hein, qui est incroyablement dur. Même aujourd'hui, je galère à passer du temps des étoiles.
Alors, est-ce que j'allais dire par rapport à Dark Souls,
Ah, non, je pense qu'il est, il est plus compliqué que Dark Souls. Parce que,
ah merde.
Parce que Dark Souls, c'est juste, au moins, tu vois. Ah,
pardon?
Alors que, c'est vraiment de la merde. Et j'avais Tetris, et j'avais jamais eu de Pokémon ou quoi. Pokémon, j'ai découvert sur émulateur, en fait, plus tard. Et voilà. Donc, du coup, on se fait bien chier.
Ouais, bah du coup, la Game Boy, effectivement, c'est pas ton truc.
Non, mais la Game Boy Color, ouais,
ça
jamais
été... Tu vas peut-être avoir des choses beaucoup plus...
Ouais.
Intéressantes, ah, j'espère, en tout cas. À nous dire, puisque la... toi, tu l'as connue de première main, c'était aussi ta première console.
La Game Boy Color, j'ai bien connu sa mère.
Mais la Game Boy tout court, tu l'as pas connue.
Si. En fait, non, techniquement, ma toute première console, c'est mes parents qui me l'avaient payée, c'était une NES.
Ah, voilà. Voilà. Donc, des belles références. Voyez, prenez-en de la graine.
J'avais 6 ans, quoi. J'avais 6 ans, comme le poisson. Découvert ça à l'anniversaire d'un pote, et j'en parlais tellement qu'ils me l'ont acheté. Bref. Et quelques années plus tard, donc la Game Boy, la vraie, la brique, quoi. C'est la première console que je me suis payé avec mes sous à moi, en faisant des petits boulots à la con qui me valaient argent de poche par la suite. Donc elle a une valeur assez particulière à mes yeux, quoi. C'est vraiment la première chose que je me suis payé pour mon loisir. Je l'ai pas eu avec Tetris. Je l'ai eu avec le bundle où il y avait Super Mario Land 2 dedans. Donc j'ai rincé dans tous
la
les
Game
sens.
Boy de base.
La Game Boy de base. Ouais, ouais.
Mais il y avait pas Tetris de base sur la Game Boy quand tu l'as lancé sans cartouche. Quand tu l'as mis sans cartouche.
Non, c'est sur les premiers packs et t'avais la cartouche qui était à côté.
Ouais, je l'ai pas eu directement à sa sortie.
Quand,
si c'est...
quand tu l'allumais sans cartouche.
Ah non,
non.
Ah non, pas du tout, c'est la Master System où t'avais des jeux qui étaient intégrés dedans, mais là, sur console Nintendo, ça
existe. Alex Kidd in the Miracle World.
Si, parce que, il me semble, parce que dans. Peut-être la version américaine alors.
Non.
Parce que dans un épisode de Malcolm, il joue à la Game Boy sans cartouche.
Mais parce que c'est mal fait, c'est un faux raccord.
Non, c'était un vrai truc.
Non, c'est une cartouche, je t'assure. C'est sûr, enfin, à ma connaissance, ça n'existe pas.
Non, pour moi,
pas.
C'était une cartouche.
Tu vas énerver, il va débarquer chez toi.
Tu l'allumais, il y avait un écran blanc, il se passait rien, je crois.
Ok. Ouais,
voilà. Non, mais alors, mecton, continue, parce que l'autre, il dit de la merde, là, donc voilà. Ce n'est pas une émission de Gaudriole où l'on fanfaronne à tout va, monsieur.
Ah, c'est bon.
Alors, j'ai pu enchaîner quelques jeux. Bah, du coup, mon premier Zelda, ça a été Link's Awakening.
Belle référence aussi.
Ouais, donc autant te dire qu'à l'annonce du remake, à peine on a vu quelques vagues, j'ai mouillé tout de suite.
T'as mouillé ta culotte immédiatement.
Mais à peine on voyait des images de vagues dans la mer, j'ai dit non, putain, c'est trop bien. Avant même qu'on voit Link en galère sur son bateau. Quoi. Qu'est-ce que j'ai comme souvenir? Ah, puis donc Mystic Quest. Donc ça, c'est un jeu qui sent le cacao pour moi, parce que c'est en regardant Crevette à la télé, Télévisator 2.
Crevette?
Ouais,
le journaliste de Télévisator 2.
Cyril Drevet.
C'est ça.
Ah.
Oui, Crevette, c'était son surnom, son pseudo dans.
Attends, mais ça fait
Player
combien de temps
One
qu'il est là, lui?
Ah, mais c'est un très vieux de la très vieille, lui. Hein. Mmh.
Comme Michel Drucker.
Maintenant, il fait des selfies en hélico à New York, mais.
Ouais, c'est ça, il a changé.
Ça fait. D'accord.
Mais Gollum aussi était bien au début, hein. Bref. Et donc, Mystic Quest, ouais, j'ai pas un très très bon souvenir de ce jeu. C'était peut-être mon premier action RPG d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai vu passer quelques jeux dessus. J'attends toujours perso qu'on me rende mon Kirby. Bâtard.
On va lancer un hashtag.
Est-ce qu'il s'appelle Julien?
Non.
non, parce qu'il y aura peut-être un dénominateur. Non, mais il faudra peut-être quand même se renseigner à brûler tous les Juliens ou quelque chose comme ça. Il faut lancer quelque chose.
Ah bah non. Non. Invitait, moi j'ai un ami qui s'appelle Julien, il est très sympa.
En tout cas, Julien,
ouais, enfin, il est un bon anarchiste. Hein.
Je te retrouve, oui, je te retrouve, mais je te pète tes dents. Quoi.
Tu parlais d'une console complètement indestructible, c'est vrai, elle a connu quelques chutes, elle est jamais morte. L'écran est un peu décollé, enfin le cache de l'écran, la partie grise autour. Mais ça, avec un point de colle, on le remet dedans et c'est bon, ça tourne. Elle marche toujours.
Oui, elle mais marche... ça, je connais très peu de Game Boy qui ne marche plus.
Hein, elle marche toujours, bah tu sais, l'anecdote d'une. Je sais pas quoi qui avait cramé.
Survécu à Fukushima, à Nagasaki.
Non, elle a survécu à Nagasaki. Mon dieu, les milléniaux. Quelle horreur. Les milléniaux, quelle horreur. Bref. Une explosion de je sais plus quoi et elle marchait encore.
Voilà. Elle est fondue, mais elle marche. Donc voilà, la mienne marche toujours. Par contre, ce qui marche beaucoup moins, c'est les accessoires à la con que j'avais pu récupérer dans des brocantes.
Oui, genre le truc pour agrandir l'écran et
donc,
avec une
loupe
et des lumières.
Voilà, la loupe ne marche plus, puisque l'écran n'était
golf,
pas...
Voilà. Putain. Elle a survécu les bombardements de la guerre du Golfe.
Eh, mais c'est ça. Non, mais c'est ça.
Ouais, non, c'est exactement ça. Elle est dans un musée, je sais plus où. Oui. Elle a vraiment sur la place.
Au Nintendo Store à New York. Bon, en vrai, apparemment, en vrai, elle marchait pas et ils ont remplacé l'intérieur.
Oh non, mais, ça
La légende raconte que elle marchait. Après...
Elle marche.
Elle marche. Okay. C'est une Game Boy, c'est indestructible.
Voilà. C'est drop on the floor, break the floor.
C'est ça.
Ouais, donc du coup là, pour continuer sur ces histoires d'accessoires, donc j'avais que la loupe avec la lumière là pour parce que jouer la nuit dans son pieu, c'était un peu compliqué si on voulait pas se faire rôder par ses parents. Donc il fallait ce petit truc pour éclairer l'écran histoire d'y voir quelque chose. Quoi. Et du coup, par contre, j'ai pas pu m'empêcher quand j'étais merdeux. Aujourd'hui, j'en rigole, hein, de baver sur la tonne d'accessoires à la con qui sont sortis pour la Game Boy. Et mon préféré dans la liste des conneries, mais si vous faites une recherche, ça va mourir de rire, c'est le truc qui marche pour faire un jeu de sous-marin dans ta baignoire. Là.
Quoi ?
J'ai raison ?
Non, c'est énorme, attends, il me le faut.
T'avais
c'est quoi ce truc ?
Alors attends, je vais te retrouver ça.
Ah oui, je veux bien, je vais en profiter pour...
Non, c'est pas ça...
Mais c'est, enfin, parce que j'ai un de mes collègues qui collectionne, un jour on l'invitera d'ailleurs, il a décidé de faire un full set Game Boy, c'est-à-dire d'acheter tous les jeux jamais sortis sur Game Boy en France. Je pense qu'un jour on l'invitera juste pour qu'il nous fasse part de sa quête, parce que c'est quand même pratiquement de l'ordre de la quête spirituelle, hein. Je vous assure qu'il y a des moments où il faut vraiment s'accrocher.
Allez, full set.
Ah, le full set, c'est un sacerdoce, hein. faut avoir l'état d'esprit pour. Mais c'est, je trouve, moi je trouvais ça vachement intéressant de l'interviewer là-dessus, et je pense qu'un jour on le fera, parce que bah, il est disponible, hein, je veux dire, c'est un de mes collègues, je peux très bien lui demander. Et il avait trouvé un truc au Japon qui était une espèce de... Alors une cartouche avec un lecteur, alors je sais pas si c'est de piste magnétique ou un lecteur de code barre, mais en fait tu passes des cartes dedans, c'est une espèce d'action RPG qui s'appelle je sais plus comment, enfin bref, c'est un truc assez ouf, et en fait tu branches une espèce de grosse cartouche dans ta Game Boy, et tu peux scanner des cartes, et en fait les cartes correspondent à des familiers à lancer ou à des sorts que tu lances, quoi.
Oh, excellent.
C'est un truc totalement pété, et lui il l'a acheté neuf, parce que voilà, pour le principe, et c'est sorti que au Japon, et apparemment tu pouvais acheter des boosters de cartes, c'est façon Magic en fait, et tu pouvais aller dans un bar tabac, acheter des cartes, et puis les passer dans ton espèce de reader japonais, je sais pas quoi, pour pouvoir avoir des un petit peu des, comme des nouveaux monstres, ou des trucs comme ça, c'est un peu le DLC de l'époque, hein, pour les jeunes. Et je me dis, mais putain, si Nintendo avait fait ça pour Pokémon, le carton, mais monumental que ça aurait été gigantesque. Bref, est-ce que tu as retrouvé ton accessoire à la con ?
Non, alors par contre j'ai trouvé un truc qui mesure ta glycémie.
Ah, il y avait ça aussi.
Il y avait aussi la machine à coudre.
Oui, il y a le printer. Il y a une machine à coudre. Ouais, ouais.
Et il n'y avait pas un outil de pêche, enfin un accessoire de pêche, je sais plus exactement.
Si, il y avait une manivelle, une sonde de coloscopie et un grippin. Non, mais il y a tous les accessoires possibles et inimaginables. Je sais pas si vous connaissez la chaîne, il y a une chaîne YouTube que là je retrouve pas le nom dans les médias, mais qui s'amuse à mettre le maximum d'accessoires sur un maximum d'accessoires sur les consoles. Et ils ont fait ça pour la Game Boy, et c'est Robocop, c'est le bordel.
Ça doit être absolument énormissime, quoi. Bref, donc
c'est le Hungry Video Game Nerd. Ah non, voilà, Game Boy Extravaganza.
Oui, c'est un épisode de VGN où le mec avait mis...
Très certainement. Non, c'est Ashens, ouais, c'est ça. Je sais pas. Et bref, et le mec fait des vidéos comme ça sur les différentes consoles, en mettant un maximum d'accessoires possibles, et effectivement c'est un mastodonte, quoi, genre faut avoir des bras de ouf pour la supporter. J'ai envoyé le lien dans le chat.
C'est quand même rigolo. Je vais finir par mon anecdote à moi. Alors ce qui est rigolo, c'est que donc moi la Game Boy c'était ma première console en fait. J'avais 6 ans, donc tout pareil que Mecton. Et j'ai reçu ça parce que j'avais eu un très bon premier trimestre au CP, genre, tu vois. Donc c'est vraiment un gros cadeau. Et j'ai eu juste Tetris avec. Et de temps en temps, je pouvais aller en magasin. Genre pour mon anniversaire, j'avais eu Tennis. J'étais super content aussi. parce que c'est un jeu de tennis, en fait, c'est cool, le jeu de tennis, au final. J'ai eu Super Mario Land 2, j'ai vraiment deux souvenirs avec la Game Boy. Le premier, c'est que ça durait beaucoup moins longtemps pour aller chez mes grands-parents en vacances depuis que j'avais la Game Boy. Avant, ça durait vraiment 4 heures, et puis après, j'avais l'impression que ça durait beaucoup moins de temps. Ça, c'est quand même cool. C'est-à-dire que les longs voyages, quand t'avais ta Game Boy, t'étais hyper content. Et le deuxième souvenir, c'est qu'un jour j'étais en vacances à la mer, et quand t'étais en vacances à la mer, quand t'étais petit, on te disait qu'il fallait pas te baigner 3 heures après avoir mangé, tout ça, parce qu'en fait, bah, fallait pas aller sur la plage entre 2 heures de l'après-midi et 3h30, c'est dangereux, effectivement, le soleil tape dur et tout ça. Donc nous, on allait à la plage que vers 3h30, 4h, mais du coup, bah, quand t'es un gamin, t'as mangé, il fait beau, t'as envie, tu te fais chier, enfin, c'est galère. Et à un moment, je sais pas, j'avais dit à ma mère, genre, ah, je m'ennuie, machin, elle m'a dit, va jouer dehors, et en fait, j'avais juste pris ma Game Boy, j'avais été dehors. Donc j'avais bien compris tous les ordres, mais peut-être pas de la bonne manière. Et voilà, c'était juste ça, ça m'avait fait marrer, parce qu'à posteriori, je me suis rendu compte qu'effectivement, va jouer dehors, j'avais pris ma Game Boy pour aller jouer dehors, ça n'avait pas beaucoup de sens, quoi. Mais voilà, certains trucs devenaient beaucoup moins longs avec la Game Boy, quand il fallait attendre chez le médecin parce que t'étais dans la salle d'attente et tu te faisais chier, ben voilà, t'avais ta Game Boy et t'étais bien, personne te cassait les couilles. Et voilà, quoi, quand t'es gamin, effectivement, avoir cette possibilité-là de jouer à un jeu vidéo, des vrais jeux vidéo, comme je le disais, un petit peu n'importe où, ben c'était cool. Après, j'ai eu des très bons jeux, donc j'ai eu Super Mario Land 2, Tetris...
Il y en a tellement,
c'est RC Pro EM, hein. Non, mais j'en ai eu plein, des très bons, et j'ai eu aussi des grosses bouses. J'avais les Schtroumpfs sur Game Boy, qui n'était pas un mauvais jeu en soi, mais qui était quand même très discutable. Et j'avais Power Rangers, moi, sur Game Boy, que j'avais acheté d'occasion, parce que voilà, j'étais pauvre. Mais voilà, donc tu avais un nombre de bouses absolument incommensurable, je pense, aussi sur Game Boy, parce que bah, comme c'était hyper populaire, t'avais plein de trucs. Mais c'était quand même très, 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 très cool.
Oh putain, le Mario Donkey Kong, il était génial.
Oui, en plus, tu pouvais le manger sur ton super Game Boy.
Ouais.
Oh, l'invention du siècle. Voilà ce qui nous manque, Nintendo. Voilà pourquoi on parlait de jouer à des jeux DS ou 3DS sur Switch. S'il te plaît, refais un super Game Boy, mais pour la DS et la 3DS, qu'on puisse y jouer sur nos télés. Ce serait vraiment très bien. Tu nous ferais ultra plaisir, vraiment. Vraiment très bien.
La rétrocompatibilité, c'est SO 2010.
Très bien. Tu es banni donc de ce. Voilà.
Alors, ah, j'ai retrouvé le nom de mon truc, ça s'appelle le Game Boy Sonar.
Oh god.
Et là, vu ce que. C'était qui, Galaxies ou Drosgar?
Moi.
Ouais, ça peut servir de sonde anale.
Ah bah ça, c'était Galaxies.
Putain, c'est chaud quand même. Hein.
Bah c'est tant bien, je vais en faire une bientôt donc.
Ami de la poésie, bonsoir.
Et la vanne part en couille.
C'est voilà, c'est bien parti. Bref.
Ah, et puis en ce moment, j'ai des problèmes de.
Non, c'est bon, ça suffit. Non, pas ça, s'il vous plaît. On va se quitter là. Je pense que dans 2 semaines. Alors, déjà, dans 1 semaine, il y aura le podcast. Surveillez bien, demain il y aura un article très intéressant. Il y a du rétro gaming qui va revenir un petit peu sous forme d'article, peut-être un petit peu plus régulièrement. Et donc dans 2 semaines, j'espère qu'on pourra parler des autres trucs, de choses. Alors, peut-être un retour sur la partie VR de Zelda Breath of the Wild notamment. Et il me semble qu'on sera éventuellement en capacité de parler un petit peu de Mortal Kombat 11.
De vrai.
Normalement.
Si tout se passe bien.
Donc voilà, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Le programme, ce sera probablement ça. Peut-être qu'on fera un petit truc sur l'E3, mais à condition qu'il y ait eu des annonces intéressantes ou un Nintendo Direct, parce que moi, très honnêtement, la conférence de Microsoft, je m'en contre-tamponne, sauf s'ils annoncent que Mario Odyssey sortira sur Xbox One. Tu vois, c'est à peu près le seul truc qui pourrait me faire m'y intéresser, et encore. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine en podcast, dans 2 semaines en direct. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent en podcast que vous pouvez nous écouter en direct sur twitch.tv/nintendojo.fr ou sur nintendojo.fr/dojobar. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent en direct que effectivement nous sommes en PC toutes les 2 semaines de la même manière. Et voilà.
Je vous fais venez suivre le compte Twitter @nintendojo.fr
et le compte Mastodon @nintendojo.fr @m.nintendojo.fr.
Ouais, il est hyper compliqué.
Il est un petit peu compliqué.
Et venez sur ma chaîne Twitch après.
C'est bon, tout le monde a fait sa promo. Mettez un pouce vert, lâche des coms, c'est bon, on les a tous faites.
Macron démission.
Cœur sur vous.
Voilà. Bisous.
C'est fait. C'est la haine, non, c'est la haine, là, je suis désolé, c'est la haine. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. Bisous, ciao tout le monde.
Bisous.
Bisous.